des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde au micro pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui se consacre exclusivement aux livres audio. Aujourd'hui, je reçois un bonhomme, je vais m'entretenir avec un bonhomme que je connais ma foi très mal, mais que j'aime déjà profondément, c'est fou. Hein. Vous savez, il y a de ces sympathies immédiates comme ça qui naissent à la première rencontre. Il est venu lire coup sur coup deux livres chez Vues et Voix, un qu'il a écrit, l'autre qu'il n'a pas rédigé. Il va nous dire pourquoi, toutes ses impressions sur ses bouquins et sur son expérience de lecteur, et surtout il va nous parler de ce livre notamment quand éduque qu'il nous a pondu, puisque son premier métier, c'est lui qui nous le dira, c'est papa. Et puis, il sera aussi question avec lui de décrocheurs qui finalement connaissent la réussite. À l'émission aussi, notre chère porte-parole, Claudia La Rochelle, qui nous fait ses propositions de lecture pour les oreilles, notamment du Margaret Atwood et Karine Thuil, récente récipiendaire, je vais le dire, du prix Goncourt des lycéens, pour le livre Les choses humaines. Et puis moi aussi, j'ai un paquet de choses à vous faire entendre, à vous faire découvrir, notamment le tome 1 d'une série commandée par Gallimard Jeunesse, une série que j'ai lue moi-même, sur laquelle je me suis fait les cordes vocales depuis maintenant quelques mois. Et le tome 1 est maintenant disponible, ça s'appelle La passe miroir, et c'est une série vraiment passionnante. J'ai envie, juste avant qu'on accueille Martin Larocque, j'ai envie qu'on écoute cette très courte chanson de Jacques Dutronc, qui est exactement ce que notre ami Martin Larocque nous dit de ne pas faire dans « Quand éduque, éduque ».
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pas quand tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu tu. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de toi. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, patata pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la, la la la. La 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 la.
Bonjour Martin Larocque.
Bonjour. À l'air essoufflant, t'as pas?
Ah oui, quand j'ai su que j'allais vous recevoir, je me suis dit, bon, quand éducation, et tout de suite, ça m'est venu à l'esprit, fais pas ci, fais pas ça. J'ai dit, ah, c'est avec ça que je vais l'accueillir. Est-ce que vous connaissiez cette chanson-là de Jacques Dutronc?
Pas du tout,
bon, eh bien, écoutez, alors soyez le bienvenu. Martin, au moment où nous enregistrons cette émission, qui, si tout va bien, sera diffusée le 12 décembre, vous auriez dû être des nôtres, mais bon, votre douce et tendre épouse passe par des moments difficiles. Vous aussi, j'imagine, avec la disparition d'une belle maman, c'est jamais facile. Les enfants...
Non, c'est jamais facile. Je suis là en support à ma belle famille. Mais il y a de ces morts parfois qui arrivent et qui sont soulageantes, tu sais, quand la personne souffre, quand c'est plus difficile.
Oui,
fait que ça coupe jamais la peine, ça n'empêche pas le deuil. Mais au fond du cœur, on fait oh. Puis après, c'est la foi qui embarque. Ceux qui ont la foi font bon, ben elle est. Ou même ceux qui l'ont pas.
Oui, c'est vrai.
Bon, ben, elle est vraiment mieux là où elle est.
Oui. Et puis, puisqu'on va parler d'éducation avec vous.
Oui.
The Papa, comme disent les Français, avec un gros Z à la place du TH, ça fait aussi partie de l'éducation. Ça, c'est ce qui leur arrive en ce moment à vos enfants, de côtoyer comme ça la mort, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qu'ils ont connu.
Oui, c'est quelqu'un qu'ils ont connu. Je suis étonné de la réaction des garçons, de cette espèce de... Oui, de sérénité face à ça, de support. Mon aîné, d'ailleurs, a appelé mon beau-père, qui est finalement un grand-père d'adoption, hein, parce que le mariage fait ça, et de lui offrir tout le support, l'entraide, sa présence, tout ça. Puis j'étais vraiment ému de voir ça. Je disais, ah ben tiens, non. Cette espèce de compassion me touche beaucoup quand ça arrive. Puis moi, dans mon top 10 de l'éducation de mes enfants, j'avais pas marqué dans la liste leur enseigner être compatissant face à la mort. Et puis, tout à coup, je constate, puis je fais, oh mon Dieu, c'est beau de voir ça de ces jeunes hommes-là qui finalement... apprivoise la vie aussi, là, c'est des adolescents.
Alors, Martin Larocque, évidemment, auteur, oui, là, on vient de le voir, mais acteur, comédien, mais je vous ai présenté comme avant tout papa, parce que avant, et vous le revendiquez, hein?
Oui, bien sûr, oui. C'est ma première signature, avant tous les titres. À 15 ans, je voulais être papa. À 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à observer les adultes qui parlaient des enfants, puis c'était toujours bien déprimant. Puis je me suis dit, il me semble qu'il doit y avoir un angle plus intéressant pour aborder la parentalité. Puis dès lors, j'ai commencé une réflexion. Puis là, à 15 ans, j'ai dû réaliser que moi aussi, je pouvais être papa. Puis j'ai fait, OK, parfait, ben, ça va être mon plan de carrière.
Alors, puisqu'on parle de la motivation, pardon, de vous interrompre, mais c'est parce que je voudrais tout de suite qu'on écoute un extrait, parce que c'est tout le début du livre audio qui nous donne une bonne idée du pourquoi, du comment. On écoute.
J'ai 9 ans et j'observe les adultes autour de moi. J'habite à Radisson. J'écoute les parents dans les réunions d'école, dans les soupers, dans les fêtes de quartier, et ce que j'entends me rend triste. Des adultes parents qui n'ont jamais quelque chose de positif et de joyeux à dire sur les enfants. À la question « Comment vont vos enfants? » Il y avait toujours un immense soupir collectif de découragement juste avant la réponse qui se terminera presque toujours par un « Eh, c'est pas facile. » Jamais je n'entendais quelque chose d'heureux ou d'exalté, de joyeux et de souriant. Je sais que ces moments de défoulement étaient nécessaires pour la santé mentale des parents de l'époque, mais j'ai jamais vraiment cessé d'observer et d'écouter les parents. Et j'entendais rarement des propos heureux et confiants. Je sentais plutôt une forme d'abandon, un découragement qui avait la même couleur que le découragement d'un décrocheur. Alors j'ai décidé, du haut de ma presque première décennie, que si un jour je devenais parent, je ne voudrais pas avoir cette attitude pessimiste. Je voulais être un papa fier, heureux, joyeux, confiant et avoir beaucoup de plaisir à éduquer mes mini-moi. Ce livre représente donc plus de 25 ans de recherche et de lecture, d'observation et de notes, de questions et de discussions, de conférences et d'écriture.
Et est-ce que vous êtes le papa fidèle à vos espoirs et fidèle à ce que vous désiriez être, Martin Larocque?
Ah, tellement. Je suis tellement content. Oui, non, mais ça, ensemble,
oui,
je suis vraiment heureux de voir qu'est-ce que j'en ai fait, d'être allé au bout de ces exercices-là. Maintenant, d'écrire, puis de chercher, puis de vieillir, le malheur quand t'es un parent vieillissant, c'est-à-dire que tes enfants vieillissent puis qu'ils quittent tranquillement, tout à coup, tu vois les raccourcis. Tu fais « Ah, j'aurais pu passer par là, j'aurais pu passer par là. » Puis on dirait que le conférencier en moi a le goût, sans jamais donner de trucs aux parents ou leur dire quoi faire, de dire « Il y a des raccourcis. » Et il y a du monde pour ça. Tu sais, il y a des gens qui sont là pour entraider, ou même les conférenciers comme moi, ceux qui écrivent des livres, tout ça, pour donner des raccourcis. En disant « Regardez, là, je sais que vous en êtes là, mais je vous montre le petit chemin juste à côté. » Puis vous allez voir... ça va peut-être sauver quelques nuits blanches ou bon, tu sais. Mais en même temps, je suis tellement content de l'avoir fait comme ça, de voir les garçons ce qu'ils deviennent. Je dis que j'ai élevé trois enfants tout croches qui marchent droit, tu sais, parce que je les livre à la société avec des hauts, des bas, le bobo, le souci, puis en même temps leur force, leur beauté, tu sais. On marche avec sa beauté, comme disent les Africains du Nord, puis je suis très heureux de les voir déambuler comme ça dans la vie, puis chercher, hein.
Oui.
J'aime ça les voir chercher, s'accrocher, tomber, se décourager. Sacha me confiait, mon deuxième, il dit, tu sais, on dirait qu'il y a un moment où j'ai pas le goût de faire le switch entre enfant puis adulte. Ça semble être difficile, puis je fais, ça l'est.
Oui, oui, oui.
Difficile ne veut pas dire impossible, et ne veut pas dire désagréable. Ça veut juste dire que oui, c'est un chemin qui est de plus en plus tordu. Peut-être il y a plus de recherches à faire pour essayer de comprendre. Puis là, j'approche.
Pardon.
Je viens de tomber dans 50 ans, puis finalement, je fais... Ça va pas si mal que ça, finalement, la vie. Ça va bien. Non, mais c'est vrai.
Oui,
on
oui.
s'en est fait beaucoup pour rien, peut-être.
Mm-hmm.
Fait que si je pouvais leur passer ça sans leur passer directement, parce que, de toute façon, disons que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit, hein, ils nous regardent aller.
Mais est-ce que vous vous heurtez parfois? Parce que c'est pas vrai que tout est rose, c'est pas vrai que tout est facile, c'est pas vrai qu'on sait comment c'est élever des enfants. C'est pas facile.
D'ailleurs, dans le livre, j'efface un peu cette image-là de la facilité. On confond souvent le plaisir et la facilité.
Oui.
On peut avoir du plaisir en cherchant puis en ayant la difficulté, puis c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, il y a des jours où, d'abord, j'en voulais plus d'enfants. Je les aurais retournés à bébé dépôt, là, tu sais, en disant, enlevez-moi ça de là. Je suis fatigué, je sais plus quoi faire. Puis tout à coup, un regard, un sourire, jeu, une niaiserie, puis tu fais,
ben oui, c'est ça. Alors, je vais le garder encore un peu, finalement. Mais non,
oui.
mais...
oui,
non, mais très, très sérieusement, Martin, vous dites que, par contre, on a un petit peu trop troqué chez nos jeunes le plaisir au profit de la performance.
C'est un malheur.
C'est un malheur, ça.
C'est un malheur, présentement. Il suffit juste d'observer un peu là, nos étudiants au secondaire, par exemple. Moi, mon travail de conférencier m'amène dans les écoles du secondaire du Canada, tu sais, puis le plus gros problème qu'on a, moi je parle d'intimidation depuis toutes ces années, puis je me rends compte que c'est plus vraiment ça qui est nécessaire, c'est plus vraiment le sujet, quoi qu'il faut en parler encore, mais c'est le stress de performance.
Oh là là.
Je pense que les parents ont mis beaucoup trop de pression sur les enfants, surtout dans les écoles privées, pour dire il faut avoir absolument une bonne note, il faut avoir absolument acquis quelque chose qu'on acquiert au cours d'une vie. Puis on dirait qu'on veut qu'ils l'aient avant 16 ou 17 ou 18 ans, qu'ils arrivent dans la vie solide, heureux et confiants et qu'ils sachent exactement où ils doivent aller. Chose que toi et moi, on fait encore, on cherche encore, on scrute encore la vie, on se découvre encore des angles, des raccoins, des fonds de poche, puis on fait « Ah, mon Dieu, j'ai ça en moi, tu sais. » Puis cette pression-là, elle joue des tours. Donc, on a une génération d'enfants... les milléniums et un peu moins, rapidement déçus par la vie, par exemple, découragés. Puis c'est pas de leur faute, c'est des gens brillants, mais
Martin,
ils sont vite déçus.
Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que votre livre est écrit sur le même ton que celui que vous avez en ce moment pour me parler. C'est-à-dire que là, vous me parlez à moi, mais en fait, vous parlez évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Et ce que j'ai adoré de ce bouquin-là, c'est le ton que vous prenez pour parler directement à la personne qui va le lire. Non, c'est pas de la gentillesse, parce que parfois... Il y a des gens, non, mais il y a des gens parfois qui écrivent des bouquins et on l'a entre les mains et on sent que, d'ailleurs, c'est un livre intéressant, ça, mais on n'a pas l'impression qu'il nous parle à nous. Écoutez, moi, j'ai pas d'enfant, Martin, OK? La vie a voulu ça comme ça, mais j'ai été intéressée pareil parce que j'en ai été une, évidemment, et que nos parents font aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont reçu. Alors, ma prochaine question, est-ce que vous avez l'impression que vous avez reçu de vos parents le bon bagage pour maintenant être le papa que vous souhaitez être?
Oh, et encore plus.
Ah oui?
Et encore plus. Ah oui, oui, ben oui, absolument. Puis on le sait pas sur le coup, hein. Il y a des années où j'ai boycotté mes parents, il y a des années où j'étais contre leur éducation. Puis là, plus je vieillis, plus je vois mes enfants devenir adultes. Et oh, c'est drôle que je vous le raconte à vous.
Ah.
c'est tout nouveau. La semaine dernière, on a un locker, un endroit, un entrepôt, parce que les enfants sont entre deux, il y a des meubles, des boîtes, des livres, tout ça. Et puis, je déménageais les boîtes, puis je redéplaçais ça, puis je sacrais après les boîtes, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup trop d'affaires, puis c'est... pourquoi ils s'en occupent pas? Puis j'étais en train, là, vraiment, de me fâcher après tout leur stock, et je me suis arrêté.
Ah oui, hein?
Puis là, j'ai pensé à mes parents qui ont charroyé mes affaires pendant des années, pendant que moi, je devenais un acteur de théâtre et tout ça. Et j'ai fait cet après-midi-là ce que j'ai appelé un appel de gratitude. Alors, j'ai appelé mes parents, et là, je dis, je dois vous dire, là, mes parents, les deux étaient sur la ligne, là, c'est un appel de gratitude. J'ai 50 ans, puis je viens de comprendre ce que ça a été pour vous de charrier mes boîtes.
Ouais,
et mon père m'avait dit, il me l'a rappelé, il m'avait dit, tu sais, si un jour tes enfants te font ça, je te défends de te décourager, de te fâcher. Et puis ma mère, j'y raconte ça, puis je m'attendais à me faire dire de ma mère, ben non, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et elle a juste dit, ben merci.
Voilà. Ben, c'est génial, Martin.
Merci de le réaliser. Puis là, j'ai fait, oh my God, je suis en train de le vivre, tu sais. Fait que j'ai fait l'appel de gratitude à mes parents. Ouais.
Écriture très vraie aussi. Par exemple, à un moment donné, vous allez pouvoir carrément déclarer, il n'y a rien de plus chiant que deux. Et ça, c'est, ça aussi, ça rend la chose tellement accessible. Ou encore, des situations qui vous font des boutons sur les fesses. Ça, je l'ai bien aimé aussi, celle-ci. Et alors, et vous dites à un moment donné, arrêtez, finis la moumounisation. Ouais. Vous trouvez qu'on est trop moumoune avec les enfants, hein?
Oh, tellement. Pauvre enfant. J'ai l'impression qu'on les sous-estime.
Ah.
Et ça me fait peur. De exiger des enfants, leur demander de faire des efforts surhumains.
Ouais.
On le fait plus. On catine, on momounise un peu. On évite. Je raconte deux, trois anecdotes dans le livre qui le prouvent, où socialement, on veut plus aller vers le risque, parce que de pas catiner un enfant veut dire qu'on le met en état de risque. C'est comme l'exemple de grimper dans l'arbre, tu sais. J'ai tendance à dire laissez-les grimper, parce que s'il tombe, il va comprendre quelque chose, il va
comprendre de ses erreurs.
Un bras,
ah ben...
mais quel enfant s'est pas cassé quelque chose quelque part dans la vie, tu sais? Fait que j'ai l'impression qu'on empêche les jeunes rapidement de découvrir les limites, tu sais? Puis on les met dans une espèce de what qui leur laisse l'impression qu'ils sont déjà arrivés quelque part ou qu'ils ont compris ou que, tu sais, il y a une Américaine qui imageait ça en disant on élève les enfants comme on taille un bonsai, tu sais. Un bonsai, c'est pourtant
c'est bon,
à la base d'un arbre très jeune, tu sais, qui a l'air mature. C'est pas intéressant. Laissez-les se salir.
Sinon, à un moment donné, ils vont vous dire so what?
Oui, mais c'est correct.
Mais
les garçons m'ont contesté aussi, c'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre, comme j'ai fait avec mes parents, leur distance, que j'ai un garçon qui veut me suivre quand je fais mes conférences pour contredire tout ce que je dis, tu sais, pour prouver que lui, il a 19, il s'en va sur ses 47, puis il a tout compris, tu sais. Et j'aime ça, je trouve ça beau, j'aime entendre son point de vue, je sais que c'est un point de vue qui est éphémère, je sais que ça durera pas, mais là, c'est son point de vue. Alors lui, ça lui permet de prendre possession de la vie autour de lui, puis de dire, regarde, là, j'affirme ça, puis tranquillement, moi ou la maman ou le village ou ses frères vont tout à coup amener un autre coup de vent, puis il va faire, ah, ben oui, regarde, ça, je me suis trompé. Puis c'est très bien, ça va être la meilleure façon de l'apprendre, tu sais, il n'y a pas... C'est pas une urgence pour moi d'élever les enfants. C'est pas un examen d'élever les enfants.
Non, mais non.
C'est un plaisir, point à la ligne. Je sais que j'ai une livraison à faire autour de 18 ans, là, tu sais, ish, là, parce que ce sont des citoyens, puis ils peuvent voter, puis ils veulent. Tu sais, puis j'y crois beaucoup, moi. J'ai cru beaucoup aux 18 en disant j'ai un plan, moi, là, je vous amène quelque part, là. Puis après ça, je vous fais confiance.
Alors, moi aussi, je vais vous amener ailleurs. Je voudrais, pour finir cette première petite discussion-là avec vous, préciser que c'est sorti, ce bouquin-là, « Quand éduque, éduque » aux éditions du Très Carré. Ça se retrouve notamment sur le site Kobo, c'est en lecture à haute voix, donc lu par vous-même. Alors, je le précise pour les gens qui nous écoutent. Là, je voudrais vous amener en musique, un petit bout seulement, sur une chanson qui est une ode, qui est une chanson pour les cancres, qui va nous amener au sujet des décrocheurs. Restez avec nous, surtout, Martin.
D'accord.
« C'est une chanson pour les cancres, ceux qui n'aimaient pas l'odeur de l'encre, ceux qui ne levaient jamais le doigt et s'en foutaient de la règle de trois, ceux qui répondaient oui présent avec un air un peu absent et qui avaient la bonne place du radiateur au fond de la classe. C'est la chanson des rêveurs, eux dont les instituteurs écrivaient nul pourrait mieux faire en rouge sur le bulletin scolaire. Peut-être une phrase aurait changé le cours de leur scolarité. Mais non, tu n'es pas idiot, regarde ce verbe comme il est beau.
Mais oui, une phrase parfois, un individu, un mot, une phrase, ça vous mais change oui. Une façon de voir. Et c'est ce que nous racontent toutes ces personnalités que François Cardinal est allé rencontrer, qui ont tous un point en commun, c'est que, sans être des cancres bien sûr, ce sont des gens qui, à un moment donné ou à un autre, ont décroché. On dit, c'est terminé les études, je vais faire autrement. Parmi eux, je voudrais citer François Cardinal, lui-même, aujourd'hui journaliste, chroniqueur, qu'on peut voir à la TV, qu'on peut entendre à la radio, dont on peut lire les textes. Il y a un ex-joueur du Canadien, Steve Bégin, il y a le chanteur Marc Hervieux, il y a le comédien Claude Laroche, etc., etc. Et est-ce que vous auriez pu faire partie de cette liste-là, vous, Martin Larocque, ou est-ce que vous avez été un élève studieux et qui n'a pas abandonné?
J'ai pas abandonné par obligation.
Ah oui.
j'étais forcé d'être à l'école, mais je m'ennuyais beaucoup. Le problème, c'est que on a un système scolaire qui couvre pas tout le monde. Et là, quand tu tombes sur quelqu'un qui, par exemple, connaît sa passion, ou très, très, très intelligent, ou extra lent, il est obligé de suivre dans un programme qui lui convient pas. Et j'étais un peu comme ça. Dieu merci, j'avais le théâtre.
Théâtre.
Fait que ça me gardait à l'école. De tous ces personnages qu'on cite dans le livre, Lâchez pas les gars, il y a des gens qui sont restés à l'école, mais malheureux comme des pierres, parce que ils savaient exactement où ce qu'ils voulaient aller, ils savaient que c'était pas eux, puis le temps leur a prouvé qu'ils avaient raison, puis ils ont trouvé finalement leur voie. Fait qu'il y en a là-dedans qui vont dire lâchez pas, maintenez l'école. Il y en a d'autres qui vont dire suivez le vent, my God, suivez le vent. Et c'est drôle parce que moi j'ai deux de mes garçons où je leur ai dit vous avez pas terminé l'école maintenant, vous la terminerez lorsque vous serez prêts. Et ils sont maintenant deux voyageurs avec leur sac à dos dans le monde. Et ils finiront quand bon leur semblera. Il n'y a pas de course, ce n'est pas une urgence. Et c'est les deux garçons, mais de tous mes garçons, mais c'est deux garçons dont je m'inquiète pas, deux citoyens dont je ne m'inquiète pas, mais pas du tout. Ils savent c'est quoi le travail. D'ailleurs, ils connaissent, je pense, plus la valeur du travail que quiconque.
Sait que chez vous, par exemple, il n'y a pas d'homme de ménage, il n'y a pas de femme de ménage. Allez hop là, toute la famille participe.
Oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous voyez, ça, c'est dans les apprentissages.
Bon.
Ça, c'est dans les apprentissages. Mais là, je vois mon plus vieux qui a son appartement aujourd'hui, puis qu'il voit, qu'il comprend, qu'il nomme même. J'aime beaucoup cette espèce d'humilité dont il fait preuve. Il va nommer en disant, je viens de réaliser que là, il faut que je lave le bain. Hey, génial, parce que oui, sa couleur d'origine n'est pas gris. C'est blanc.
C'est très bon. Si vous me le permettez, Martin, on va entendre un petit extrait. C'est encore vous donc qui avez lu ce livre de François Cardinal. C'est également disponible sur le site de Trécaré, Québécois, ou encore en livre audio sur le site de Kobo. Un extrait, donc.
En fait, ce n'est pas un écart qui existe entre les garçons et les filles au Québec, c'est un canyon. Prenez par exemple le taux de réussite du programme de deuxième cycle du secondaire en 5 ans au Canada et comparez la différence entre les deux sexes. Comme l'a fait l'Institut du Québec dans une analyse fascinante réalisée en 2018. D'une province à l'autre, cet écart oscille entre 1 et 5 % Au Québec, la différence est de 14 % Vous imaginez? Plus de 71 % des filles réussissent dans les temps contre seulement 57 % des garçons. Pensez-y, c'est à peine plus de la moitié des élèves masculins. Comment expliquer une telle situation? Si vous posez la question à des experts, vous obtiendrez autant de réponses qu'il y a de spécialistes. La matière, les méthodes d'apprentissage, le faible nombre d'hommes qui enseignent, le peu de temps accordé au sport, etc. Mais peu importe la raison, le constat demeure. Le Québec a un problème avec ses garçons, qui sont plus nombreux qu'ailleurs à quitter les bancs d'école sans regarder en arrière, malheureusement. Je suis un de ces jeunes qui a passé ses années scolaires, les yeux rivés sur la porte de la classe, avec une seule envie, déguerpir. Je ne suis pas passé à l'acte pour toutes sortes de raisons, je me suis accroché contre toute attente, et bien franchement, malgré la douleur ressentie pendant toutes mes années d'école, malgré les difficultés provoquées par ce lourd statut de cancre, il n'y a pas un jour qui passe sans que je m'en félicite. Voici mon histoire d'anciens cancres. Voici l'histoire de 12 anciens cancres qui ont aujourd'hui réussi. Autant de témoignages différents qui montrent l'importance pour les garçons de ne pas lâcher et pour les parents de ne pas désespérer.
Alors, on comprend bien, là aussi, le titre « Lâchez pas les gars », parce qu'on peut se demander « Mais pourquoi il n'y a pas de filles là-dedans ?» Mais il l'a expliqué au tout début. C'est vous qui avez 3 garçons, apparemment, ça n'a pas l'air de vous faire peur, puisque vous dites que vous n'êtes pas inquiet, en tout cas pour 2 sur les 3, quoi.
Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, je sais pas, hein, on s'amuse avec les mots. Dans certaines régions du Québec, on est rendu à 45% de décrochage chez les garçons. Et j'ai horreur de dire ce sont des cancres ou des gens...
Non, c'est ça.
C'est juste... Quand j'ai dit à Miro qu'il pouvait quitter l'école puis que ça me dérangeait pas, j'ai dit, tu sais, Miro, tu vas te faire traiter de décrocheur. Prépare-toi à ça, parce qu'il y a des gens qui vont le juger, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais il dit, papa, il dit, je décroche pas, il dit, je m'accroche à moi-même.
Ah.
Puis j'ai fait, oh, c'est bien beau ça, j'aime ça comme phrase.
Mais oui.
Puis effectivement, je le vois aller, puis je le vois chercher, scruter, puis, puis voilà, il s'est accroché à lui-même. Donc tous ces jeunes hommes-là qui errent un peu parfois, on a de magnifiques programmes au Québec qui vont les accueillir, puis qui vont tout à coup mettre en lumière le beau de ce qu'ils sont et de leur talent.
Oui,
exactement. Alors, je suis pas vraiment inquiet, non. Mais c'est sûr que c'est alarmant annoncé de cette façon-là. C'est là que rentrent en ligne de compte les parents.
Exactement. Là, on boucle la boucle comme ça, Martin Larocque,
oui.
Hein, parce qu'on a d'abord parlé avec vous de votre rôle de papa, et puis là, à l'instant, d'une autre forme d'éducation, l'éducation scolaire, celle-ci, qui est parfois, oui, difficile, mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est ce que disent tous les intervenants, dont Alexandre Taillefer, entre autres, qui lui aussi a abandonné à un moment donné l'école, c'est qu'ils reviennent tous à la même chose. Essaie-toi de te trouver une passion, nourris-la, travaille pour elle, mais travaille pour elle par exemple, parce que ça ne va pas t'arriver tout cuit dans le bec.
Non,
hein?
Non.
Clairement.
C'est l'autre affaire.
C'est l'autre affaire.
Une valeur qui est moins populaire, l'effort, mais je pense qu'ils vont la comprendre. Juste un peu plus tard, peut-être, mais on va la comprendre.
Alors, Lâchez pas les gars de François Cardinal et Quand t'éduques, éduques de Martin Larocque, avec qui je m'entretenais pour vous aujourd'hui. 2 livres qu'on retrouve chez Trécaré Québécois, en audio ou encore par imprimé, qu'on retrouve également sur le site de chez Kobo en livre audio. Merci beaucoup, Martin Larocque, pour ces mots, pour cette intelligence de vie. Et puis ben, bonne chance, bon courage dans les moments d'épreuve que votre belle famille vit en ce moment. Salut.
Merci beaucoup. Salut.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Le Salon du Livre, cette année, ça a été un petit peu comme une comète. Et vous savez, au bout d'une comète, il y a cette queue qui brille, qui brille, qui brille. Et on est encore tous pas mal sur la queue de la comète. Et Claudia Larochelle également, elle qui était là-bas, elle va venir nous en parler. Elle sera au téléphone également, mais elle va nous en parler dans quelques secondes, de la même façon qu'elle nous parlera de ce livre, Les choses humaines, de Karine Thuil, dont je ne vous ferai pas là le résumé, puisqu'elle va le faire elle-même. Et puis également à l'émission, je vous parle de cette série à laquelle j'ai collaboré, puisque je l'ai lue. Série avec pas moins d'une 50aine de personnages différents, ne serait-ce qu'une 20aine dans le tome 1. Tome 1 de La Passe Miroir pour Gallimard Jeunesse dans la collection Écoutez Lire. C'est sorti. Après quelque chose comme 17 heures de lecture, bah en fait, donc ça vous multipliez par 2 en studio, mais ça vous donne à peu près 16-17 heures de lecture pour ce tome 1. Et régalez-vous les oreilles, c'est pour les ados, mais c'est vraiment aussi pour les adultes. Voilà. Alors, je reçois tout de suite Claudia La Rochelle. Es-tu là, Claudia ?
Allô, oui.
Ça va bien ?
Oui, merci, Claudia. Ça va très bien.
Bon, c'est ce que je disais. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Claudia ? On est comme un petit peu tous, même si, bon, c'était déjà il y a deux, trois semaines, le salon, mais... On est resté imprégné par ce salon-là pour des raisons parfois différentes, mais une chose est sûre, c'est que ça a été un salon vraiment particulier. J'aime pas trop cet anglicisme-là, mais là, c'est vrai. Il a vraiment eu quelque chose de spécial que les autres peut-être n'avaient pas. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, c'est un salon unique. C'était le deuxième salon sous le règne d'Olivier. Donc, Olivier, le nouveau directeur du Salon de l'île de Montréal. Je dis Olivier parce que j'ai son nom de famille m'échappe là, tout à coup.
Puis moi aussi. Quel attendant, voilà. Attends, on cherche. On va te le trouver, Claudia.
Mais tout ça pour dire que c'était un salon, oui, où physiquement, le salon s'est amélioré en ce sens que maintenant, il y a des fenêtres au Salon du Livre à la Place Bonaventure. Je tiens à dire que c'est la dernière année. C'était la dernière année à la Place Bonaventure, malheureusement. L'année prochaine, ce sera au Palais des Congrès. On verra ce que ça va donner.
Oui, avec donc, Olivier Goujon.
Ah, c'est ça.
Ah non, je sais. Écoute, c'est épouvantable, je l'avais.
Beaucoup, beaucoup de fenêtres, très éclairées. Il y avait des espaces. Bon, ils vont certainement garder la même stratégie d'avoir des espaces de lecture, de respiration, des places où les gens peuvent... et ça manquait, ça. Puis c'est vrai que c'est le fun. Des endroits où les gens peuvent se reposer, s'asseoir, lire un peu ce qu'ils viennent d'acheter. Partager leurs trouvailles. Il y avait un espace bar, toujours bien populaire dans les salons du livre avec les écrivains qui prennent un coup. Les espaces bars, alors on aime ça. Il y avait...
L'espace innovant, l'espace où on était enfin, vus et voir, on pouvait enfin se faire montrer le bout du nez et les oreilles et les nombreuses voix. Ça, c'était génial aussi, hein, l'espace innovant. On a tous beaucoup aimé ça.
L'espace innovant était magnifique. Donc, c'est ça, il y avait quelque chose comme un nouveau souffle à ce salon-là. Les écrivains ont apprécié. Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles ventes aussi, ce qui est très intéressant pour le milieu du livre québécois.
Bien sûr. Alors, parmi les gens que tu as rencontrés, tu as dû faire, parce que je me souviens que tu nous avais parlé avant le salon, tu devais aller à la rencontre de Louise Penny notamment. Tu n'as pas été déçue. Ouais.
Ben non, j'ai pas été déçue. Louise Penny, toujours d'une générosité incroyable. J'ai fait mon entrevue dans mon anglais de campagnard. J'ai un anglais horrible. Elle a été d'une générosité, d'une compréhension. elle parle beaucoup mieux français que moi anglais, mais bon, tout de même, elle tenait, puis je comprends, à faire l'entrevue en anglais. Je comprends, parce que quand on parle de littérature, parfois, on est mis dans notre langue d'origine pour les nuances, les bon.
Oui.
Alors, elle était d'une générosité devant son public. Elle est très, très aimée, appréciée. Et je comprends pourquoi aussi. Beaucoup d'humanité émane de cette femme qui était journaliste pour CBC avant, qui a tout largué, s'est consacrée à l'écriture. Ensuite, elle est très proche du couple Bill et Hillary Clinton. Ils aiment beaucoup son écriture. Ils aiment beaucoup découvrir le Québec à travers sa voix, elle. Donc, oui, il y a eu elle. J'ai découvert aussi Bret Easton Ellis, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir,
dans
mon mauvais anglais.
Pas déçu non plus?
Non, pas déçu.
Je sens une petite pointe ou deux.
Non, parce que je suis en réflexion par rapport à ses... Je trouve que c'est un homme qui assume beaucoup ses propos, ce qui est bien. Je trouve qu'on a beaucoup la langue de bois de nos jours. Donc, quelqu'un qui va à contre-courant, qui ose dire des choses, des choses qui peuvent... nous faire friser le poil de sur les bras.
Comme quoi?
C'est sûr que lui, il a des opinions assez arrêtées sur la droite américaine, sur Trump, sur hashtag MeToo. C'est des sujets qui sont, disons, assez controversés, qui ne peuvent pas être tout blanc, tout noir. Oui. Je comprends. Par contre, il a dit des choses, il a écrit des choses à travers ses réseaux sociaux, par exemple, qui ont été durement interprétées avec raison. Donc, je suis revenue un peu sur sa philosophie, sur ce qu'il pense de la politique américaine, de la démocratie, tout ça. Donc, je suis revenue là-dessus avec lui. Il m'a paru être un homme, évidemment... C'est un homme que je lis depuis plusieurs années. Il appartenait à ce courant, la Brat Pack Generation, avec d'autres écrivains, très populaires aux États-Unis dans les années 90. Bon, c'est lui qui a écrit American Psycho.
Oui.
Donc, il a donné naissance à Patrick Bateman, donc ce psychopathe de Wall Street, des finances américaines, ce loup des finances américaines qui finit par commettre des crimes odieux. Donc, on a parlé de ça. Il a parlé beaucoup du politically correct aussi, qui est un peu, qui est très présent dans l'époque actuelle. Il s'insurge contre ça, mais il s'insurge surtout de la culture du politically correct dans l'art.
Dans l'art, oui, c'est ça.
Ouais, dans l'art, surtout. C'est ce dont il est question dans son plus récent livre, qui est un essai sur l'art, justement, oui. Sur les dérives de l'art, quand l'art tente d'entrer dans des cases, quand l'art est aseptisé. Lui, il aime la démesure, il aime ce qui choque, il aime ce qui fait grincer. Ouais. Et ça, je suis assez d'accord avec lui.
Oui.
Voilà.
Ben, écoute, en plus, je tiens à préciser que tous ces gens dont nous parlons en ce moment ont tous des livres audio très faciles à trouver. Il suffit d'indiquer leur nom, Louise Penny, livre audio, et vous allez en trouver à l'appel à la tonne. J'aurais voulu qu'on aborde un livre tu m'avais évoqué le titre, voilà, je vais finir par le dire. C'est le titre de Karine Thuil, Les choses humaines. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on dit les choses humaines ou les choses humaines? C'est pas beau, les choses humaines.
Moi, j'aurais dit les choses humaines, mais c'est peut-être les choses humaines, mais je trouve que ça se dit mal.
Ça se dit mal, hein, c'est pas joli à l'oreille. Hein. Donc, dans ces cas-là, faut pas la faire, la liaison. Allez, hop.
Ben, je sais pas. Alors, elle a gagné déjà pour les choses humaines, le livre, le prix Interallié.
Interallié, oui.
Ouais. D'ailleurs, je regardais le jury du prix Interallié. Composé que d'hommes, exclusivement encore.
Tiens donc, encore une fois.
Mais c'est incroyable comment leurs prix sont toujours... C'est excellent, en tout cas, bref. Mais bon, toujours bien...
Non, mais t'as raison, Claudia. Non, il ne faut pas s'empêcher de le dire. Bravo, enfin, écoute...
Écoute, ça n'a pas de sens.
Mais non, ça n'a pas de sens. Non, il faut le dire, et je te remercie de l'avoir fait. Et ça a aussi gagné le Goncourt des lycéens, hein, c'est bien ça?
Oui. Exactement, le Goncourt des lycéens remis il y a quelques semaines. Les choses humaines, c'est son 11e roman à Karine Thuil. Il s'est écoulé à plus de 35 000 exemplaires. Elle a remporté donc ces prix-là et le mérite des prix qui lui revenaient parce qu'il y a dans ce roman-là, qui est un roman assez dense, une histoire très actuelle, très moderne aussi.
Oui.
Alors, on a affaire à un couple successful, un couple de succès, de powerful, comme on dit, de pouvoir.
Ouais.
Alors, c'est Jean et Claire. Jean, il est journaliste, très connu. Elle est plus jeune que lui. Elle fait sa place dans le monde du livre. Et ça va très bien. Ils ont des ententes. Ils ont chacun, comme j'allais dire, le gros préjugé, mais comme certains couples en France.
Tu peux. C'est beau, Claudia. Non, je le prends pas personnel du tout.
On vous le souhaite. Alors, disons, chacun amant maîtresse de leur côté, tout ça, mais tout tient. Est une structure qui tient dans leur cas, et tant mieux pour eux. Et à un moment donné, la fille du couple de Karine Thuil, de Jean et
de Claire.
C'est un ingénieur, un gars brillant. Il sera accusé de viol par l'une des filles de l'amant de Claire. Alors, on voit un peu la posture dans laquelle tout le monde va se trouver. Ça défait un peu cette structure-là. On en revient un peu à plusieurs sujets qui sont d'actualité.
Oui.
Donc, on en revient au consentement. On en revient aussi à ce qui est acceptable, ce qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui ébranle un couple de succès, un couple qui vit dans l'œil médiatique? Alors, c'est vraiment...
Et le fait que le sexe est au cœur de tout. Si tu le permets, on va écouter un petit extrait, parce que j'en ai trouvé un extrait. Et il est question... Et tiens, dis donc, je pense me souvenir qu'il sera encore question de Bill Clinton là-dedans. Je ne sais plus pourquoi. Extrait.
La déflagration extrême. La combustion définitive, c'était le sexe, rien d'autre. Fin de la mystification. Claire Farrell l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale provoqué par l'attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine rencontré à l'occasion d'un congrès. Elle l'avait compris quand, au cours de sa carrière, elle avait vu des personnalités publiques perdre en quelques secondes tout ce qu'elles avaient mis une vie à bâtir. Poste, réputation, famille. Des constructions sociales dont la stabilité n'avait été acquise qu'au prix d'innombrables années de travail, de concessions, mensonges, promesses. La trilogie de la survie conjugale. Elle avait vu les représentants les plus brillants de la classe politique se compromettre durablement, parfois même définitivement, pour une brève aventure. L'expression d'un fantasme. Les besoins impérieux du désir sexuel. Tout. Tout de suite. Elle-même aurait pu se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis. Elle avait 23 ans à l'époque et effectuait un stage à la Maison-Blanche, en même temps que Monica Lewinsky, celle qui resterait célèbre pour avoir fait vaciller la carrière du président Bill Clinton. Et si elle ne s'était pas trouvée à la place de la brune voluptueuse que le président surnommait affectueusement « gamine », c'était uniquement parce qu'elle ne correspondait pas au canon esthétique alors en vigueur dans le bureau ovale. Blonde, aux cheveux tressés, de taille moyenne, un peu fluette, toujours vêtue de tailleur-pantalon à la coupe masculine. Pas son genre.
Le sexe.
Ouais, c'est pas mal. J'ai beaucoup de conversations sur ce sujet-là par les temps qui courent.
Ah oui?
Parce que, ouais, ben c'est beaucoup dans l'air. On parle beaucoup de sexe, de consentement, de comment... Tu sais, on a eu des personnalités connues ici au Québec dont le sexe, quand ça a pris la place sur l'espace public, a gâché la façon dont
eux... gâché leur vie, bien sûr, oui.
Ben oui, parce qu'ils ont mal géré ça.
Donc,
la sexualité, ça se gère. Ouais. Et il faut bien la gérer, et surtout quand il y a une personnalité publique. Je pense. Et c'est dommage, mais c'est comme ça.
Exact.
Parce que ça peut interférer dans la vie de d'autres, dans la vie d'autres personnes. Et c'est là que c'est la déflagration dont on parle Karine Tuil
dans son livre. Claudia, je rappelle le titre, Les choses humaines de Karine Tuil. Comme ça se prononce, T-U-I-L, prix interallié, prix Goncourt des lycéens. Et Claudia La Rochelle, notre porte-parole. Je voulais te remercier, Claudia, parce que j'ai vu que sur le site avenue.ca, tu as parlé de nous. Tu as craqué pour les belles-sœurs.
Ah, j'ai craqué pour les belles-sœurs. J'ai toujours un jeu craque
en audio.
C'était à vous. Pour les belles-sœurs, votre livre audio produit par Visez-Voix que tu as orchestré de main de maître.
Je t'en remercie.
Voilà.
Merci infiniment. En tout cas, c'est très apprécié, Claudia. Et on se retrouve, très prochainement, en janvier, certainement, bien sûr, après les fêtes, que je te souhaite excellente.
Et toi de même, ma chère Clotilde, je t'embrasse.
Moi aussi, je t'embrasse fort. Salut, okay. Claudia.
Au revoir.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malobré d'une, la mer du Nord en hiver. Sortaient ces éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde, j'ai des lacunes. En blonde, j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre. Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun. Sur ma de ta langue amie. Et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard, Adamo, MC, Sola, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique ses flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien. Ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille. Sur la digue, un petit point parti dans l'audi de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
Ça, ça a dû faire plaisir à Alain Souchon, parce que je sais que Claudia écoute cet album-là littéralement en boucle. Claudia La Rochelle, bien sûr. Alors, des nouveautés maintenant, une nouveauté qui me concerne, oh, un petit peu, dans le sens où je l'ai lu. Non, mais c'est parce que c'est incroyable. Bon, ça me gêne toujours un petit peu de parler de trucs que j'ai fait, mais que voulez-vous, c'est quand même une série très attendue, notamment en France, parce qu'elle a fait un tabac sous sa forme papier. Il s'agit de La Passe Miroir, 4 tomes, imaginez. Chaque tome, à peu près en moyenne, je vous dirais 600 pages. Ça vous donne une idée du temps que je passe en studio en ce moment, a donné vie à une cinquantaine de personnages, dont le personnage central qui s'appelle Ophélie, qui sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope cache des dons singuliers. En effet, elle peut lire le passé des objets et elle peut surtout traverser les miroirs, d'où le titre. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. Alors à ce moment-là, cette jeune fille doit quitter sa famille et doit le suivre à la Citaciel, qui est une espèce de capitale flottante située au pôle Nord. Alors, à quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, cette jeune Ophélie, toute timide, qui a une petite voix comme ça, devient le jouet d'un complot mortel. C'est une héroïne inoubliable, vraiment, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. C'est une grande saga fantastique à découvrir, peut-être plus par chez nous, parce qu'en France, ils la connaissent bien. C'est le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. Elle s'appelle Christelle Dabos, D-A-B-O-S. Voici un extrait du tome 1 de La Passe Miroir.
C'était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sous son sourcil une loupe d'expertise qui lui faisait l'œil énorme. Il portait des gants ainsi qu'une chemise blanche mal repassée sous son veston. Ophélie toussa encore une fois, mais il ne l'entendit pas à cause du phonographe. Plongé dans sa lecture, il accompagnait le petit air d'opéra en chantonnant, pas très juste d'ailleurs. Et puis, il y avait aussi le ronflement de la cafetière, les gargouillis du poêle et tous les petits bruits habituels du bâtiment des archives. Ophélie s'imprégna de l'atmosphère particulière qui régnait dans cette loge. les fausses notes du vieil homme, la clarté naissante du jour filtrant à travers les rideaux, le froissement des pages tournées avec précaution, l'odeur du café et, un ton en dessous, le parfum de naphtaline d'un bec de gaz. Dans un coin de la pièce, il y avait un damier dont les pièces se déplaçaient toutes seules, comme si deux joueurs invisibles s'affrontaient. Ça donnait envie à Ophélie de ne surtout toucher à rien, de laisser les choses en l'état, de rebrousser chemin, de peur d'abîmer ce tableau familier. Pourtant, elle devait se résoudre à briser le charme. Elle s'approcha du lit et tapota l'épaule de l'archiviste. « Maudit Dieu !» s'exclama-t-il en sursautant de tout son corps. « Tu ne pourrais pas prévenir avant de tomber sur les gens comme ça !»« J'ai essayé !» s'excusa Ophélie. Elle ramassa la loupe d'expertise qui avait roulé sur le tapis et la lui rendit. Elle ôta ensuite son manteau qui l'enveloppait de pied en cap, débobina son interminable écharpe et déposa le tout sur le dossier d'une chaise.
Réalisation vraiment 100% vues et voix, lecture Clotilde Say, moi-même, et la musique, je voudrais citer Dany Thériault qui a participé à cette aventure-là, présentée sur le catalogue de Écouter, lire chez Gallimard Jeunesse en audio. Donc, dites donc, êtes-vous plutôt du genre matinal? Eh bien, tant mieux, parce qu'il paraît que les gens matinaux sont millionnaires. Mathieu, tu te lèves tôt? Et t'es pas millionnaire? Alors là, il y a quelque chose qui marche pas. Et si le véritable secret des millionnaires ne consistait pas à en faire plus, mais à devenir plus? Voici Miracle Morning pour millionnaire, qui est basé sur la méthode de Hall Herold, présentée dans l'ouvrage bien connu Miracle Morning, ce guide vers la fortune extraordinaire, mesdames et messieurs, pour vous faire découvrir ceci. J'ai pensé qu'avant les fêtes, c'était quand même un cadeau à faire. Le lien indéniable entre les matins et la fortune, ce qui explique que faire fortune ne constitue jamais une quête passive. Le processus simple de réveil en 5 étapes qui vous rendra aussi matinal qu'un millionnaire. Les 4 choix qui s'imposent pour faire fortune et plus et plus et plus. Voici en définitive la vraie valeur des matins. C'est que dans ces instants de tranquillité et de silence où le monde sommeille et où vous avez la situation bien en main, tellement que vous favorisez la poule aux yeux d'or et que vous découvrez le potentiel formidable dont chaque journée est porteuse. Extrait.
Les millionnaires du dimanche laissent le pain sur la planche pour une chemise blanche qui leur va beaucoup mieux. Les millionnaires du dimanche font une baraque en planche, un cabanon sous les branches où ils sont plus heureux.
Je me suis mis à découvrir qu'il existe un lien entre matin et richesse. Non seulement les gens font rarement la grasse matinée, mais encore les millionnaires du monde ne la font presque jamais. Le lien entre matin et millionnaire. Plus je passais de temps en affaires, mieux je faisais le lien entre matin et argent. Plus je tirais profit de la première partie de ma journée, de façon très précise, dont je vous parlerai plus loin, plus ma valeur nette augmentait. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Si vous examinez les habitudes des millionnaires, ce que nous ferons tout au long du livre que vous écoutez, vous constaterez qu'un nombre étonnant de gens riches sont des lève-tôt. Il y a une bonne raison à cela. Les matins et l'argent ont beaucoup en commun. En matière d'argent, il se peut que le conseil financier personnel, le plus prisé de tous, consiste à se payer d'abord, c'est-à-dire à prendre une partie de l'argent gagné et, avant toute autre chose, à le mettre de côté en vue d'un placement. L'outil financier le plus puissant du monde, ce sont les intérêts composés. Or, si vous n'avez jamais d'argent à placer, vous n'aurez jamais l'occasion d'en tirer profit. Ainsi, vous devez d'abord prendre cet argent, sinon d'autres choses l'engloutiront tout simplement.
Voilà, mes amis, un livre audio à offrir à Noël, à ceux qui se lèvent tard, par exemple. C'est genre à votre adolescent, l'adolescent dont on parlait, les adolescents dont on parlait un petit peu plus tôt avec l'ami Martin Larocque. Bon, laissez-moi d'abord vous rappeler, avant de conclure cette émission, ce livre s'appelle Miracle Morning pour millionnaires. C'est sorti, c'est une exclusivité audio libre que vous retrouvez donc très facilement sur en ligne. En livre audio, c'est signé Al Herold et David Osborne et c'était lu par la délicieuse voix de Bernard Gabay. Alors, je referme cette émission, non sans remercier le généreux Martin Larocque et la non moins généreuse Claudia Larochelle. Merci beaucoup aussi à Mathieu Tessier qui était en régie aujourd'hui. Je vous rappelle que c'était Clotilde Seil qui se passionne littéralement pour le livre audio qui fait parler de plus en plus de lui, le livre audio qui a enfin eu sa place au Salon du Livre dont nous reparlions tout à l'heure avec l'amie Claudia Larochelle. Glissez-vous des livres audio entre les oreilles, les amis. C'est un très, très beau cadeau à vous faire. Ça prend pas de place, sauf dans votre cœur et votre esprit. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.